Vous écoutez
RMC. RMC. After Foot. Intégrale Coupe du Monde. Intégrale Coupe du Monde.
Nicolas Jamin.
Avec Kevin Diaz, avec Flo Gautreau, en direct de Doha, 1h26 au Qatar, 23h26 à Paris, messieurs. On va prolonger sur l'équipe de France. Hein. Qui avec Upamecano, y a-t-il un doute, un débat? Varane ou Konaté? Varane n'a pas été bon face à la Tunisie. Tiens, quelques infos à vous donner rapidement concernant Neymar, qui est le seul joueur de la Seleção à ne pas avoir quitté l'hôtel aujourd'hui. Il est en plein travail de récupération dans le Westin Hotel de Doha. Peut-être que ça l'arrange, hein. Peut-être que ça... participe à la récupération de Neymar. Lui ne s'est toujours pas entraîné, bien sûr, on le sait. On ne sait pas quand il viendra. Alors au Brésil, on dit que ce ne sera pas avant une éventuelle demi-finale. On verra ça dans les prochains jours. Je vous dis également qu'Hansi Flick reste bien sélectionneur de la National Mannschaft malgré l'élimination. Et puis tout à l'heure, on parlait de la Belgique également. On avait beaucoup de larmes, notamment celle de Romelu Lukaku, qui a vécu un cauchemar, qui a eu 4, voire 5 grosses occasions.
C'est quand même
pas marqué.
C'est révélateur un peu d'en parler avec Kevin là, hors antenne. Et moi, j'aurais vraiment beaucoup les neufs. J'aime beaucoup ce genre de joueur. C'est très très dur, mais pas très étonnant par rapport à ce qui lui arrive depuis un an. Je pense que dans son prime, il y a, je sais pas, un an et demi, il aurait mis l'une de ses occasions.
Son prime à l'Inter, exactement.
Ouais, et je pense que là, il a perdu un truc que tous les attaquants connaissent, c'est la confiance. Il n'a pas le bon body language, il ne sent pas l'erreur sur de Lovren, enfin il n'anticipe pas une erreur éventuelle. Quand tu es derrière gardien défenseur, si le centre n'est pas bon, tu ne peux que espérer une erreur d'un défenseur ou d'un gardien, et ça n'importe quel attaquant le fait, n'importe quel attaquant tacle avant le centre sur certains tirs, etc. Il n'a pas ces gestes-là. Il avait presque raté ses occasions avant de les mettre. Il se mettait une énorme pression, notamment cette balle de la tête. C'est vrai que c'est Lukaku. Je pense que c'est terrible. J'ai entendu Eric Dimeco qui a dit la phrase juste. Je pense qu'il va pas dormir. Il va très, 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 très mal dormir. C'est très dur. Mais en revanche, sur le global de cette équipe-là, c'est, on le disait tout à l'heure, le destin annoncé d'une équipe vieillissante. C'est De Bruyne lui-même, hein, qui l'a dit dans cette Coupe du Monde.
C'est un crépuscule pour cette sélection.
De toute façon, les Belges, ils sont assez francs en général.
On en parlait tout à l'heure avec. Ils ont des problèmes aussi de relationnel au sein de l'équipe. Hein.
Ça, bon, ça a toujours été ça. Monde, hein. Entre les Wallons, les Flamands,
entre
les vieux, les jeunes.
Les défenseurs et les attaquants, là, c'était clair.
C'est n'importe quoi. Puis l'histoire de Bruyne Courtois, ces deux hommes qui ne se parlent pas depuis maintenant 2014. Voilà, on sera avec un confrère. D'ailleurs, une histoire savoureuse également, bon, qui a été démentie aujourd'hui au sein de la sélection serbe. Je ne sais pas si vous l'avez suivi, non. Entre Dusan Vlahovic notamment et Rajkovic, et la compagne de Rajkovic. Voilà, vous avez compris. Je voulais en venir dans ce triangle présumé amoureux. Messieurs, je voulais dire également que Roberto Martinez va quitter la sélection.
Deux aussi. Hommes, une femme, trois possibilités.
Non, je ne l'ai pas
vu. Ou je ne sais plus, c'est un homme, deux femmes, trois possibilités.
Trois hommes et un couffin. J'ai vu.
Ouais.
J'ai vu le cœur
des hommes.
Quatre mariages et un enterrement, c'est ça. 9 semaines et demie aussi.
3-0.
Bon, les gars, Roberto Martinez a annoncé qu'il quittait la sélection belge. Il était en fin de contrat. Il est aussi DTN. On en parlera tout à l'heure avec notre confrère journaliste belge qui sera avec nous dans quelques minutes. Je vous rappelle également qu'RMC et Foot Corner vous font gagner des maillots de sélection nationale de cette Coupe du Monde. Et ce soir, un maillot collector. Il faut envoyer Foot au 32-16. Foot au 7-32-16 pour gagner le maillot de la National Mannschaft. C'est pas une blague. C'est très simple. Foot au 7-32-16.
Ça reste un maillot mythique, hein, éliminé ou pas. T'as raison. Hein.
Gagnez votre maillot sur RMC avec footcorner.com. Les maillots de vos équipes favorites et toutes les plus grandes marques de sport sont sur footcorner.com.
Avant la compétition, Nico, j'avais le choix entre le maillot de l'Allemagne et le maillot du Japon. J'avais choisi le maillot du Japon. Je dis ça, je dis rien.
Tu dis ça, tu dis rien. Bon, ben écoute, on verra. On parlera des Japonais, hein. Jusqu'où peuvent-ils aller?
Tu penses qu'ils vont taper la Croissie?
Je sais pas. Moi,
c'est assez ouvert, je trouve.
J'ai une telle acquaintance avec Luka Modric que je ne peux pas parier contre la Croatie.
Hiroki Sakai a été interrogé. Réaction que nous envoie à l'instant Flo Germain. Éliminer la Croatie, Hiroki? Bien sûr que c'est possible. Nous venons de battre l'Espagne et l'Allemagne. C'est assez incroyable.
C'est sûr,
voilà,
c'est sûr que c'est possible.
Plus rien n'est impossible pour la sélection japonaise. L'équipe de France, les gars, je vous dis rapidement également qu'à partir de minuit, heure française, la libre antenne prend le relais comme tous les soirs depuis le début de ce mondial avec Nico Villas qui sera aux manettes. Alors, Varane, Konaté, y a-t-il un débat? On est d'accord, on part du principe que Upamecano, titulaire indiscutable en défense centrale, juste pour le dire très rapidement.
Oui, je pense qu'il va être titulaire, même si Konaté a été bon.
Alors justement, c'est le débat. Konaté ou Varane, y a-t-il un doute, y a-t-il un débat? Julien est avec nous au 32-16. Salut Julien.
Salut. Merci de me recevoir.
Mais on est heureux de t'accueillir ici à Doha en direct. Il est 1h31 du matin. Alors, est-ce que tu as un avis sur la question? T'es plus Konaté ou Varane? Ce débat, on le fait aussi parce que Varane a montré des signes plutôt inquiétants face à la Tunisie hier, comme le reste de son équipe, cela dit.
Il y a deux raisonnements à avoir, moi, je pense. Aujourd'hui, en tant que sélectionneur, je me mets dans la tête de Didier Deschamps. Varane, c'est son pilier indéboulonnable en défense centrale. Bien évidemment, je pense qu'il va être titulaire aux côtés d'Upamecano. Moi, maintenant, mon avis perso, je trouve que Varane a été très limite contre la Tunisie. Il n'est pas tout à fait remis de sa blessure. Hein. On le sait, il a une blessure quand même assez grave avec Manchester United. Il a une préparation tronquée. Konaté, comme tu l'as dit, moi je pense qu'il a montré de très belles choses face à l'Australie. Ils ont déjà joué ensemble à Leipzig avec Upamecano. Moi, à ma place, je mettrais le duo Konaté-Upamecano, sans hésiter. Maintenant, on sait comment on va réfléchir Deschamps. En vrai, il n'y a pas débat aujourd'hui. Hein, on se met dans la tête du sélectionneur. On a déjà la charnière centrale qui va jouer. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi.
Tout à fait d'accord, parce que le bon débat, c'est toujours problématique. C'est qu'est-ce que doit faire, enfin, ferait Deschamps ou pas? Ça, on le sait, en fait. C'est-à-dire que le débat, il n'existe pas sur ce que va faire Deschamps, qui va mettre Varane. Et après, on en revient après donc à ce que je disais de longue date sur cette charnière de l'équipe de France qui va de Loris, Varane, Pogba à l'époque, Griezmann, où je voyais moi un affaiblissement logique dû aux années qui passent. Je maintiens le raisonnement pour Varane et je pense qu'effectivement, vu la complémentarité et la complicité et l'antériorité, je crois que c'est une cinquantaine, soixantaine de matchs, même pour le Konaté avec Upamecano, notamment à Leipzig.
C'est quatre saisons à Leipzig ensemble, c'est ça, les gars.
Je crois que j'ai vu des stats autour de 57 matchs. Oui, ce serait pas du tout déconnant de faire ça. Sauf que, comme d'habitude, Deschamps l'a fait quand il a été contraint de le faire pour laisser Varane au repos. Sinon, il le fera pas. Donc, il y a un débat qui est légitime. Techniquement, il est intéressant et je serais de l'avis de, j'ai oublié ton prénom, excuse-moi.
Julien,
pour dire que je préférerais aussi aller sur une charnière plus rapide, plus jeune et complémentaire, qui est celle de Leipzig, pour faire simple. Mais si c'est pour savoir ce que va faire Deschamps, il va mettre Varane. L'équipe, on la connaît à peu près, donc il va mettre Varane
dans le canot.
Moi, je pense quand même qu'on a besoin de l'expérience de Raphaël Varane, même si Konaté a été bon. Et puis, de toute façon, il n'y a même pas vraiment de sujet, parce qu'au final, on sait tous que Didier Deschamps fera ce choix de titulariser Raphaël Varane, sauf problème physique. Et je pense que j'aurais fait le même que lui, parce que ça, c'est quand même un joueur qui a toujours répondu présent en équipe de France et qui est un des leaders de cette équipe, un leader de ce vestiaire. N'oublions pas que c'est important. Et donc, je pense que ce week-end, ce sera bien sûr Raphaël Varane qui jouera contre la Pologne.
Mais est-ce que, Kevin, c'est pas justement ce genre de raisonnement, comment dire, où il faut être parfois dans l'anticipation, dans le coup d'avant de la part d'un sélectionneur? C'est-à-dire que bien sûr que tu t'appuies.
Une charnière centrale, c'est quand même important, sachant qu'on a dit tous les problèmes qu'il y a au milieu de terrain. Il reste peu de monde de cette colonne vertébrale de 2018. Il reste quand même Hugo Lloris qui est performant en club. Varane, avant de se blesser, il était performant avec Manchester United. Et derrière, au milieu de terrain, on n'a personne.
Ah, si, il descend quand même.
Sur les dernières semaines avant sa blessure avec Martinez, ils avaient quand même redressé la barre dans cette défense.
Ouais, moi je vous trouve un petit peu dur quand même sur le milieu de terrain. Je vous écoute depuis tout à l'heure en disant contre des carences au milieu, etc. Moi, le milieu, sincèrement, je ne l'ai pas trouvé mauvais. Je l'ai même plutôt trouvé bon, que ce soit face à l'Australie ou au Danemark.
Ouais, mais tu l'as dit.
Et on a un Rabiot qui s'affirme vraiment
T'as dit Australie-Danemark. Moi, le Danemark, on les a surcotés complètement par rapport au fait qu'ils avaient battu la France.
Ils ont raté leur Coupe du Monde.
Ouais, ils ont raté leur Coupe du Monde. Mais quand tu regardes les matchs, justement,
l'année dernière, ils vont en demi-finale de l'Europe.
Oui, mais
il n'y a pas vraiment de règles aujourd'hui. On a bien vu. Il y a plein de favoris qui sortent, plein d'équipes grosses comme l'Allemagne.
Peu importe. Aujourd'hui, le titulaire de l'équipe de France au milieu de terrain, c'était censé être N'Golo Kanté. Malheureusement pour nous, il est blessé depuis très longtemps. Voilà. Ouais. Derrière, c'était pour jouer avec Paul Pogba, qui lui aussi a un problème physique. Et ensuite, il y a Adrien Rabiot. Donc, du coup, tu as quand même le deuxième et le troisième choix du milieu de terrain français, c'est tout. C'est pas très grave, mais c'est juste pas le premier choix.
C'est pas le premier choix, mais Rabiot, moi, quand j'ai quand même suivi des matchs avec la Juve cette année en Ligue des Champions, même si ils ont quand même été sortis ou en championnat, moi, je trouve qu'il a fait quand même de très bonnes prestations. Et que là, même si c'est le Danemark ou l'Australie, le gars, il a montré de bonnes choses. Sincèrement.
Mais on n'a pas dit qu'il n'avait pas montré de bonnes choses. On a dit que c'était pas le premier choix.
C'est pas le premier choix, mais c'est quand même un bon choix, je pense. Faut pas être aussi pessimiste sur le milieu de terrain. Moi, je pense que même avec Griezmann en numéro 8, il y a eu des choses intéressantes, et je pense qu'on peut être optimiste pour la suite. Moi, il faut pas les enterrer tout de suite. Bon, même si on sait que contre la Pologne, ça devrait le faire. Et on s'inquiète un petit peu pour la suite de la compétition, mais il faut quand même regarder ce milieu à 3 qui a bien fonctionné avec des joueurs qui sont titulaires toute l'année en Ligue des Champions, hein, même si Tchouaméni n'est pas forcément titulaire avec le Real. Quand il a fait les rentrées, il a quand même montré de bonnes choses, et ces mecs là ils ont l'habitude du haut niveau. Moi, je suis sincèrement très confiant. Là où je suis, il y aura un petit débat, je pense, en ce moment en équipe de France, c'est plutôt à droite. Quand on sort un Pavard qui a fait un mauvais match,
on va en parler.
Et qui a quand même répondu présent en équipe de France depuis 2018, un mauvais match, on sort. Et Koundé, moi, pour le voir jouer avec le Barça ou avec Séville l'année dernière, il ne m'inspire pas du tout confiance. C'est là, je pense, où aujourd'hui, il y a plus un débat que la charnière centrale.
Tu vas être d'accord avec mon avis qui va venir juste après, Julien.
D'accord, ok. Bah, c'est bon, alors.
Merci, Julien.
Avec grand plaisir.
Merci Julien, à très vite sur RMC et dans l'After Intégral Coupe du Monde. Ton avis porte sur Benjamin Pavard, mon cher Kevin.
C'est ça.
Nous t'écoutons d'abord ton jingle. Et il n'y a pas de jingle pour Kevin Diaz, c'est pas grave, tu vas dérouler. Je rappelle l'intitulé, il faut absolument sauver le soldat Pavard, il sera utile dans la suite de la compétition. Pourquoi, mon cher Kevin? Je rappelle que le sélectionneur Deschamps a dit qu'il a pris un entretien avec Benjamin Pavard, qu'il n'était pas dans les bonnes dispositions pour jouer contre la Tunisie. Pour la suite, on le verra. Ça semble plus être un problème mental que physique pour Benjamin Pavard. C'est Fabrice Hawkins qui nous rappelait que lui avait déjà expliqué qu'il préférait jouer dans l'axe dans l'absolu, mais qu'il était quand même prêt à rendre service sur un côté. Le joueur a été très touché par sa mauvaise performance contre l'Australie pour le match inaugural des Bleus dans ce mondial. Kevin, pourquoi faut-il absolument compter sur Benjamin Pavard?
Bah écoute, je pense que j'ai été formidablement lancé par Julien, qui, comme les auditeurs de l'After, sont souvent pertinents, parce que il en a parlé lui-même, hein, du fait que Jules Koundé à droite, ça peut être une solution de dépannage, mais ça ne reste qu'un dépannage. Et comme tous les dépannages, il peut y avoir quand même une petite fuite de temps en temps. Et donc, moi, je pense qu'un joueur comme Pavard, c'est sûrement pas le meilleur latéral droit du monde, mais en tout cas, c'est un joueur sur qui tu vas devoir t'appuyer en cas de problème avec Koundé, ou même s'il ne répond pas complètement, ou qu'il ne donne pas satisfaction complètement. Donc voilà, moi je trouve que c'est un joueur pour qui Didier Deschamps a toujours eu beaucoup de confiance et qu'il a toujours fait jouer quasiment à chaque fois qu'il a pu. En tout cas, ça a pu être central, ça a pu être central à 3, ça a pu être arrière latéral, ça a pu être piston. Donc bref, aujourd'hui, je pense qu'il faut pas brûler ce que tu as aimé. Je sais pas quelle est la situation personnelle de Benjamin Pavard au sein du groupe, ou je connais pas son niveau de confiance, mais je pense que on peut en avoir besoin. On a déjà très très peu de choix en ce qui concerne les joueurs de couloir. On va pas revenir sur cette constitution de liste ubuesque avec un nombre de défenseurs centraux invraisemblable, et par contre très très peu de latéraux, alors qu'on avait quand même des latéraux qui jouaient dans de grands clubs. Je vais pas y revenir, mais voilà. Donc je pense vraiment que on peut avoir besoin de Benjamin Pavard. Encore une fois, c'est peut-être pas le meilleur latéral droit, mais c'est quelqu'un qui essaye toujours de faire son travail assez consciencieusement, qui joue quand même au FC Bayern, et ça, c'est pas rien.
Mais pas forcément latéral droit.
Et si, au FC Bayern, il a joué 14 matchs cette année, latéral droit.
Oui, mais lui...
Une dizaine en défense centrale.
Et c'est le destin de Pavard depuis le départ que d'être en défense centrale. C'est l'idée aussi générale qu'il est maintenant meilleur en défense centrale.
Ouais, il a toujours été défenseur central, à la base.
On en revient donc, effectivement, c'est pour ça que je ne vais pas incriminer Pavard. Je l'ai souvent critiqué très fort en équipe de France récemment, en pensant que ça ne le ferait pas. Et on se retrouve en début de Coupe du Monde avec un débat qu'on a encore ce soir d'ailleurs, et que Deschamps maintenant a lui-même instauré, puisqu'il a d'ailleurs dans sa nouvelle méthode de communication hein, cette année, un peu différente, où il dit un peu plus de choses quelque part en conférence de presse. Il a un petit peu exposé en plus Pavard là pour le coup.
C'est ça.
C'est là il a
c'est pas anodin, Flo, je pense.
Non, c'est pas anodin.
Deschamps qui dit pas grand chose en général sur les joueurs, surtout en pleine compétition.
Oui, t'as remarqué, Nico, depuis qu'il est un peu plus en danger, il a lâché avant la Coupe du Monde son système. Jamais il avait fait ça. Il dit plus de choses. Je pense que c'est une façon de se protéger, y compris par rapport à son groupe, parce que des joueurs ont dû critiquer Pavard, ont dû faire sentir vraiment qu'ils n'avaient pas confiance.
Ah, mais Dembélé l'a manifesté notamment pendant le match, plusieurs
donc,
fois.
Donc, si tu veux, c'est investir à ce niveau-là, c'est la guerre. C'est la guerre entre certains joueurs. Je dis la guerre, ça ne veut pas dire qu'ils ne s'entendent pas, mais c'est la guerre pour ta place. Deschamps, il fait des choix en ce moment. Pavard, ça doit être très dur à encaisser. De voir les choix même que peut faire Deschamps. Donc on en revient au choix qu'a fait Deschamps, que moi je ne comprends pas effectivement sur ce manque de latéraux. Donc une fois que tu n'as pas les bonnes personnes, tu risques de cramer ton Camavinga que tu as mis là hier arrière gauche pour ses premiers pas en Coupe du Monde, tu risques de cramer Koundé comme tu l'avais déjà fait avant, déjà quand tu le mettais latéral droit, tu peux cramer Dizazi puisque alors là tu une grande nouveauté en latéral droit, etc. Et donc tu crames Pavard qui ne joue pas son meilleur poste. Qui sait qu'il est critiqué et sur la sellette parfois, qui maintenant en interne l'est aussi et qui est exposé en conférence de presse. Ça fait partie des interrogations globales sur la défense que j'évoquais tout à l'heure. C'est en ça que je dis, tu vois, que ça paraît moins clair puisqu'on parlait du Brésil où chacun sait qui il est et qui il a derrière en numéro 2, etc. C'est ça qui est en danger. Et Deschamps, mais qui navigue bien hein, globalement avec ce genre de choses, il a choisi de communiquer comme ça. C'est effectivement, comme tu le dis, pas un hasard.
Une transparence inédite pour Deschamps. Les gars, dans un instant, on va parler de la Belgique éliminée de ce mondial. C'est l'autre grande Europe éliminée après avec l'Allemagne. Et le Maroc également, rendez-vous des huitièmes de finale. Non seulement rendez-vous des huitièmes, mais aussi premier de son groupe pour affronter l'Espagne mardi à 16h. Reste avec nous, l'After, intégral Coupe du Monde sur RMC. À tout de suite.